fait quoi aujourd'hui, hein?
Putain, c'est qui l'invité dans la chemise à rayures?
Aucun souvenir.
Oh, je me rappelle plus non plus. Hein.
Philippe! C'est qui l'invité dans la chemise à rayures?
Bon, vous m'avez fait un conducteur. 30 secondes.
Oh purée, ça va être à nous. Oh, Elsa, t'as le café à côté de toi?
Les feuilles, vite, range.
Y'en a plus. Oh, il n'y a plus de café, là.
Attends, on en fait après l'émission.
Mon papier n'est pas imprimé, là. Ah,
les jours.
Oh, ouais, ce gars, c'est tout pas chaud. Mais c'est pas
vrai. Je m'en fous, j'ai pas le temps.
Bip. Bip. Bip.
Allez, on y va.
Je suis pas réveillée.
5 secondes.
Allez, dernière fois. Zou.
Allez, les gars.
Bonjour à toutes et à tous.
On y va. Allez, c'est parti.
Vivement l'encensoir que l'on tousse. Il est vrai qu'en ces temps incertains, on fait plus confiance aux encensoirs qu'aux abreuvoirs. Hein? Bonjour Elsa.
Salut Manu.
Bonjour Zed. Et bonjour Chloé. Voilà, avant de démarrer cette émission et pour éviter d'être pris de court en fin d'émission parce qu'on est à la bourre, on va faire deux précisions avant de démarrer. La semaine prochaine, pas de matinale car Radio Saint-Off fait de la formation, donc on a des stagiaires. La matinale de 10h, le matin pardon, de 10 à 11h. On va retrouver Faïdo Sonore, donc c'est une petite association qui fait des créations sonores du côté des Pyrénées, qui va nous inviter à découvrir et qui vous invite à vous aussi des portraits d'étrangers sur Toulouse. Et on n'oubliera pas le soir à 18h le magazine des stagiaires. Et ce vendredi-là, on va tous où ? Au défilé, allez hop, c'est parti. Et une deuxième précision qu'on n'aurait pas eu, je sais pas, j'en ai pas entendu parler moi, mais c'est un peu inquiétant et personne n'en parle. Le 8 novembre, c'était hier, il y a eu un cyclone en Méditerranée. Et alors il y a eu, ça veut pas dire qu'il a disparu, il est toujours là. La dépression à l'origine des pluies abondantes, je lis le texte que j'ai lu ces derniers jours sur l'ensemble du sud de la France, dont des Pyrénées-Atlantiques aux Alpes-Maritimes, évolue actuellement un tropical-like Mediterranean storm. C'est rigolo. Un TMS, je ne sais pas ce que c'est, mais bon, voilà. Avec des caractéristiques d'un cyclone ou tempête tropicale. Elle se situe au large des îles Baléares et de la Catalogne espagnole et se dirige pour les prochains jours vers le golfe de Gênes. Elle devrait frapper le Var et les Alpes-Maritimes déjà durement touchées par les récentes inondations ainsi que la Corse où les vents seront supérieurs à 100 km/h. Voilà, le sud d'Aveyron devrait rester en marge de ce système. Il est rare de voir un tel phénomène en Méditerranée, mais bon, ça arrive une fois tous les 5 ans, il paraît. Donc voilà, cyclone, tempête tropicale en Méditerranée. Je pensais que les tropiques, c'était ailleurs. Au sommaire aujourd'hui de cette émission, dans Chou et Fadaise, Elsa va nous causer du G20.
Tout à fait.
De l'après-G20.
Plutôt. Ouais, du G20 et peu l'après-G20.
Ouais. Dans la chemise à rayures, on ira direction Camarès pour un festival de films musicaux et dans A300. Non, c'est pas dans A300, c'est dans le 3A246. Jamais j'ai mis fois ce numéro. Direction le cimetière, mais plutôt un visiteur. Mais tout de suite, une petite pause musicale et on va retrouver le dernier album de Tina Riwen. Tina Riwen, à l'origine du rock Touareg, le groupe Tina Riwen renoue avec l'inspiration de ses débuts, le désert du Normandie. Mais en ce moment, cette région est plutôt déconseillée puisque problème de terrorisme et autres. C'est donc dans le Tassili Nadjer, un massif qui se situe au sud-est de l'Algérie. Mais bon, c'est à peu près au même endroit, hein, c'est juste dans un autre pays. C'est ce Tassili qui va les accueillir. Cet album enregistré principalement en acoustique sous la tente ou le ciel étoilé au milieu du désert a donné son nom à cet album Tassili. Donc on va s'écouter Aden Osamnat.
سبحان الله يدمع كايدمع الميلاد استيل يا ضين وسمنت
قدامنا نستخلى ولينا عديد لنا ترجشنا يا الغرمان ولينا
سبحان الله سبحان الله سبحان الله
هايتما
هايتما
بيدان يا ضيد وسمنا لنا ترجشنا ترغرمان ولينا أتوا إجريونا ترهانة وإجريونا ترهانة
سبحان الله سبحان الله سبحان الله
يتما يتما الميدة استرياضين وسمنت سمنت بيت إقلال ولينا في دنقنا ترجشنا
سبحان الله سبحان الله سبحان الله
كايدما
كايدما
الميدة استرياضين ترجريونا ترهانت لنا ترجشنا ترجريونا وسمنت
سبحان الله سبحان الله سبحان الله
يتما
يتما
الميدان
استرياضين وسمنت
Et maintenant, Chou et Fadaise, Elsa, c'est à toi.
Merci. Donc, revue de presse, retour sur le G20. Ce matin, je suis allée acheter la presse pour préparer un petit peu et j'ai été surprise par le nombre de mots similaires titrant les journaux. Argent, crise financière, économique, politique, banque, dette, lutte des classes, Grèce, etc. On ne parle plus que de ça, les pieds dans le plat tourbillonnant de la crise. Ça m'a donné envie de me renseigner sur l'étymologie du mot crise. Tu sais ce que ça veut dire, Manu ?
Ben non, tu vas me le dire.
T'es sûr que tu sais pas ?
Non.
Ça vient du latin médiéval crisis et ça signifie manifestation grave d'une maladie ou bien encore du grec jugement. Le 21e siècle souffre donc d'une grave maladie, peut-être même incurable. Eh oui, nous souffrons d'une croissance infinie dans un monde fini. Comment faire ? J'aime bien cette image des représentants qui bouffent toutes les ressources et qui chopent une crise de foie. Au final, on n'arrive plus à digérer tout ce qu'on a fait. Ça passe pas.
Ouais, mais le foie, lui, il sait s'en remettre et nous, on s'en remettra
pas. Nous, on s'en remettra peut-être pas. Impossible donc de ne pas parler du sommet du G20 qui s'est tenu la semaine dernière, les 3 et 4 novembre, au Palais des Festivals du Congrès de Cannes. Et oui, prestigieux endroit qui accueille chaque année le Festival de Cannes. Tapis rouge donc également pour les représentants des pays développés. Car vous n'êtes pas, peut-être pas sans savoir que le G20 représente 85% de l'économie mondiale et seulement 2-3% de la population mondiale. Donc j'insiste là-dessus, ça signifie que seulement 2-3% des plus riches de cette terre détiennent à eux seuls 85% des richesses. Quand même aberrant. Alors avant de nous intéresser à la presse, un petit rappel d'histoire. Rappelons que le G20 a été créé en décembre 1999 en réponse aux crises financières qui ont frappé les pays émergents à la fin des années 90. Confronté à la plus grave crise économique et financière depuis la Seconde Guerre mondiale, le G20 s'est transformé lors du sommet fondateur de Washington en novembre 2008. Les chefs d'État et du gouvernement se sont mis d'accord sur un plan d'action exceptionnel pour éviter l'effondrement du système financier et de l'économie mondiale. Il est devenu la principale enceinte de coopération économique et financière. Et devinez pourquoi faire ? Pour assurer une croissance mondiale fondée sur des bases saines et solides. La question se pose alors, existe-t-il une croissance saine et solide ? À ce propos, savez-vous combien ça coûte en moyenne un G20 ?
Cher.
Très cher, environ 80 millions d'euros.
Oh, c'est tout ?
Oh, oh. Manu, est-ce que tu savais qu'il n'existe pas sûrement sur les îles tropicales les endroits paisibles où les riches prospèrent tranquillement ?
Non.
Des endroits où la crise financière ne se fait pas trop sentir, où dès qu'elle apparaît, on s'empresse de la cacher vite sous le tapis, comme la poussière.
Ça existe,
et
ça ?
Ouais, ça existe. Et je te le mets dans le mille, c'est Cannes, bien sûr.
C'est pas une île.
C'est pas une île, justement. C'est pas une île. Il n'y a pas que sur les îles qu'on peut prospérer tranquillement. Le courrier international de cette semaine nous donne donc de quoi se faire une idée sur cette charmante petite cité balnéaire, avec un article intitulé « Ces autres 1% que les invités du G20 ne verront pas ». Voilà, en fait, le courrier international de cette semaine, ils ont fait un truc sur les 1% contre les 99%. Ça veut bien dire, ça résume bien l'intro de cette revue de presse. Donc on apprend qu'à Cannes, il y avait 20 chefs d'État, évidemment, le G20, 5000 délégués, 3500 journalistes. Et pendant une semaine, des barrages hermétiques, même les écoles ont été fermées. Même les écoles. Que feront donc les sans-abri? Enfin, que feront, c'est déjà passé. Donc qu'ont fait les sans-abri face... Enfin, qui dorment dans les rues, les parkings souterrains, et comment ils peuvent faire les poubelles pour manger, Manu?
Oh, ils ont été occupés ailleurs.
Voilà, et donc Cannes, une ville, une cité, on l'a dit, balnéaire bien riche. Les travaux de restauration de la gare vont coûter 42 millions d'euros. Et un nouveau quai a été construit pour accueillir des yachts. C'est sympa, hein? Donc certains paient très cher leur place au soleil. Et oui, il fait bon vivre, bon, avec la tornade qui se rapproche, là, on ne sait peut-être pas... ce que ça va donner. Hein. Donc même les familles nombreuses à Cannes n'arrivent pas à... Elles doivent patienter des années pour trouver des logements sociaux et autres. La ville a vendu cher ses terrains et des investisseurs russes, chinois et italiens y font pousser des appartements de luxe et des villas. Donc aujourd'hui, la ville compte plus d'agences immobilières que de boulangeries. Voilà. Les plus petits logements se louent en moyenne 800 euros. Le T1. Ok, c'est pas mal. Donc de nombreux... Alors il y a pas mal de SDF qui vont là-bas parce qu'en fait, les nuits, apparemment, il fait même l'hiver, il fait 15 degrés. Donc tu peux encore dormir dehors sur les plages. Donc, et ce qui est très curieux, c'est qu'il y a plein de SDF d'Allemagne qui vont se réfugier à Cannes. Mais il y a des Hollandais, etc. Donc c'est pas... on parle pas des Roumains, des... Non, non, c'est des pays européens qui viennent squatter et survivre à Cannes. Donc cet été, la ville de Cannes, le Courrier international vous apprend que la ville de Cannes a voulu inciter les habitants à donner utile à travers une campagne d'affiches et de prospectus. Donc au lieu de donner aux mendiants dans la rue, il leur a été conseillé de faire des dons aux organisations caritatives. Mmh. Et là, le Courrier international finit en parlant d'une jeune Jasmina qui, depuis plusieurs mois, est venue, dort sur la plage avec une amie hollandaise. Donc, elle fait les poubelles. Et dans une des boulangeries haut de gamme, elle déniche un sac rempli de croissants. Mais une odeur pestilentielle l'assaille. Le bon boulanger a pulvérisé du poison sur ses invendus.
Ah,
donc, on essaie de chasser les SDF pour que ça reste, voilà, une petite cité protégée. Donc, voilà, le G20 s'est passé à Cannes. Et ça, c'est ce que nous dit le Courrier international. Donc également dans le supplément Alter Monde, donc ça c'est le supplément de journal Libération de la semaine dernière. Quant à lui, il est intégralement consacré au G20. Il fait un décryptage très intéressant de la situation actuelle et des défaites passées et à venir concernant ce rassemblement d'hommes d'État. Bon, alors parfois il s'y pose de jolies questions utopiques telles que « La gouvernance mondiale est-elle crédible sans la société civile ?» et propose comme solution, par exemple, de placer l'OIT, l'Organisation internationale du travail, au cœur des décisions. Je ne sais pas s'ils seront d'accord, mais bon, pourquoi pas. Hein. Donc on y trouve aussi des questions sinistrement réalistes, telles que « Qu'est-ce que le G20 si ce n'est un groupe d'États qui décide au nom de tous les autres ?» et font un rapprochement très intéressant avec les institutions internationales comme la Banque mondiale, le FMI ou l'OMC. Donc toutes ces personnes censées représenter le bien de tous et la population... C'est pas trop ça, hein. Il se passe indéniablement la même chose partout et parfois même au sein de nos petites communes. Donc dans cet altermonde de Libé, Pedro Paez Pérez, c'est l'ex-ministre équatorien de l'économie, président de la commission technique présidentielle pour la nouvelle architecture financière régionale. Ça fait un peu compliqué comme ça. Hein. Donc lui, il nous informe que les autorités n'ont tiré aucune leçon de la crise. C'est un ex-ministre de l'économie qui dit ça, donc il sait quand même de quoi il parle. Presque toutes les propositions et tous les projets ont disparu. Le système financier d'aujourd'hui est une hérésie pour le développement et pour la croissance. Il dit et il maintient que ce système maintient les inégalités, qu'il n'y a pas de place pour l'investissement à long terme. En plus d'être immoral, il favorise la spéculation et les bulles financières. Les politiques de restructuration et d'austérité n'ont jamais montré leur efficacité.
Alors, il y a un truc qui m'étonne, c'est qu'il parle de crise, qu'il n'a jamais tiré de conclusion de la crise. Il faudrait d'abord qu'elle soit arrivée. Elle n'est pas encore là.
C'est ça. Donc, beaucoup de questions, mais aussi de pistes envisagées dans ce supplément altermonde de Libération. Ce qui me fait rire, c'est le slogan qu'ils ont trouvé cette année pour le G20. Vous savez ce que c'est ? G20, nouveau monde, nouvelles idées. Ouais. Et pourtant, il n'en est rien sorti de nouveau. Seulement des demi-mesures et des avis mitigés. On apprend sur le site internet Euronews, un site spécialisé sur l'actualité européenne, qu'il n'y a pas de grande avancée après ce G20 de Cannes, que les 20 plus grandes puissances économiques de la planète ne sont même pas parvenues à un consensus pour la création d'une taxe sur les transactions financières. Voilà. Que, par contre, le FMI s'est vu confier la lourde tâche de placer l'Italie sous surveillance. Pas plus, sinon, que ce G20 a davantage resserré les forts liens d'amitié entre Barack Obama et Nicolas Sarkozy, surjouant l'amitié, se félicitant sans cesse en s'appelant par leur prénom. « Oh Nicolas, que tes idées sont bonnes !»« Oui, je sais, mon cher Barack, ensemble, on va vraiment casser la baraque. » Avant de conclure cette revue de presse par deux citations, je voulais vous dire que la revue Politis a sorti un hors-série pour le mois de novembre et de décembre qui est vraiment intéressant sur les alternatives. Il s'appelle « De l'utopie à la réalité, les transitions énergétiques ». Donc on y trouve pas mal d'idées, Manu, de pistes et de projets pour des alternatives d'économie locale, mais autres, énergétiques. Donc pour tous ceux qui ont envie ou qui ne sont pas trop au courant de ce qui est possible de faire en amont, c'est intéressant d'acheter ce Politis. Je reviens juste, je pense que j'ai le temps, oui. Une parenthèse, un retour sur l'altermonde de Libération. À la fin de tout ce dossier consacré au G20, il y a un débat entre plusieurs économistes qui s'appelle « La croissance est-elle la solution à la crise ?» Donc c'est intéressant, c'est la première fois que c'est des économistes qui se posent la question en tant que telle. Donc il y a des gens d'attaque, mais des économistes bien, bien coincés. Donc c'est super intéressant d'avoir des avis, des pistes, et c'est donc en train de bouger lentement. On ne sait pas encore ce que ça donne. Donc voilà. Donc pour conclure, j'aimerais bien citer deux personnages politiques. Le premier, vous allez être surpris de savoir qui c'est. L'inégalité est un moteur de la croissance. Et la croissance est la seule chose qui puisse rendre l'inégalité supportable. La croissance est une promesse d'abondance qui atténue la détresse du pauvre. Tandis que l'État stationnaire est surtout un rêve de nanti qui veut surtout que rien ne change. Et donc c'est Henri Guénaud, le conseiller de Nicolas Sarkozy, qui a dit ça il n'y a pas très longtemps. Donc cela en dit long sur les intentions du gouvernement, hein, l'inégalité comme moteur même de la croissance. Et enfin la croissance comme promesse d'abondance, la carotte au bout du bâton. Quoi. Quelle belle ambition. Et enfin une autre citation, « Nous avons dû lutter contre les vieux ennemis de la paix, le monopole industriel et financier, la spéculation, la banque véreuse, l'antagonisme de classe, l'esprit de clan, le profiteur de guerre. » Et ça c'est l'extrait d'un discours de Roosevelt en 1936. Voilà, un discours qu'il a fait au Madison Square Garden. Roosevelt, qui fut 4 fois élu président des États-Unis, et il est invraisemblable de constater que les vieux ennemis de la paix, dont on parle Roosevelt dans les années 30, sont encore bien vivants et coriaces aujourd'hui.
Ah là là, donc croissons, croissons.
Hein? Croissons.
Croissons, croissons pour s'en sortir. Il y en a qui ne comprennent rien. Allez, on va se faire une autre petite pause parmi les CD de la semaine. Là, on va retrouver La Mal Coiffée, le dernier album. Qui sont ces gens-là? Ce sont des nanas qui arrivent d'un petit territoire situé entre la vallée de l'Aude et le Minervois des Cathares. 5 voix féminines qui sont messagères d'une langue qui claque. L'occitan. 10 ans qu'elle apprenne à la chanter, à l'arranger, à la partager. Je dis que ça fait un moment déjà qu'elle le maîtrise, cette langue, cette putain de langue, comme on dit. Donc, Marie, Hélène, Laetitia, Myriam et Karine, le morceau est Lugat.
Lugat se penceno de tras une souquet. Lugat se penceno de tras une souquet. L'oublier yarsi le boli bal une soufflé. Oh la la, catette, catette. Oh la la, calidunara. Oh la la, catette, catette. Oh la la, calidunara. La figlia o facciaro se metta plura. La figlia o facciaro se metta plura. Barira sta mai re l'uboli chita. Oh la la.
Oh la la, catetto, catetto, oh la la, calinara, oh la la, catetto, catetto, oh la la, ta prura badira sa mai lu bolikita mungate dai ma preso cala i ma li calma li dai pro se mentre va si che luna mai manira e se manira se kindra che ci sta magna gara oh la la
La mal coiffée. Il a plu. Les frimas de l'hiver s'installent dans les vallées, rien de tel pour réchauffer le corps et l'esprit qu'un bon film musical. Du 10 au 13 novembre, au cinéma Le Temple de Camarès, la quatrième rencontre du film musical de l'abbaye de Sylvanès, un sujet d'Elsa Gourmand dans la chemise à rayures.
Michel Volkovitsky, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes directeur de l'abbaye de Sylvanès et vous venez aujourd'hui nous parler des quatrièmes rencontres du film musical. Alors avant de rentrer dans le vif du sujet, est-ce qu'on peut faire un petit bilan de ce festival ?
Voilà, alors avant d'attaquer une programmation film musical, c'est vrai qu'on avait abordé la problématique du 17e art à travers davantage la relation de la création cinématographique à la dimension spirituelle. Alors c'est vrai qu'on avait engagé un festival qui avait intéressé, mais qui quand même... avait un public on ne peut plus intimiste. Et on s'est dit, ce serait bien peut-être de toucher le 7e art à travers ce que sait bien faire Sylvanès, c'est-à-dire la musique. Et le film musical, c'est vrai que depuis les débuts du cinéma, vraiment, dès les premières années, a emmagasiné tout un répertoire très, très multiforme de ce qu'on pouvait faire au service de la musique par le film. Alors que ce soit le film d'opéra, le film musical, la comédie musicale, en fait, des films de biographie sur les musiciens ou sur la musique, enfin je veux dire qu'il y a matière à faire. Et c'est vrai que c'est la quatrième année, alors c'est sûr que c'est une programmation qui s'adresse au public local, puisqu'on est en novembre, on est hors de toutes les grandes périodes festivalières où on attire beaucoup de monde à Sylvanès. Rappelez que ce festival se tient dans la magnifique salle du Temple à Camarès, on a la chance d'avoir ce petit bijou qu'il faut aussi mettre en valeur. Donc c'est un public qui se construit. C'est vrai que l'année dernière, on était quand même assez contents. Ça avait quand même bien mieux marché que les deux premières années. Moi, comme je dis, il faut pas baisser les bras. D'abord parce qu'on aime le cinéma, on aime la musique. Et en même temps, c'est vrai que je crois qu'il faut du temps pour habituer les gens à venir, à marquer dans leur calendrier annuel un temps de rencontre. Et je crois et j'espère que ces rencontres musicales finiront par devenir un temps sud-avéronais intéressant.
Alors, concernant la programmation, comment est-ce que vous la choisissez ? Est-ce qu'il y a une idée directrice ?
L'idée directrice, c'est le film musical. Donc, j'essaie dans les programmations de présenter des choses très différentes. Hein. Ça peut être, comme je vous le disais, le film d'opéra. Il y en a eu de très beaux, il y en a de très beaux que nous n'avons pas tous, bien sûr, proposés. Il y a des comédies musicales qui ont été portées à l'écran. Il y a beaucoup de films sur qui sont des biographies. Il y en aura cette année, certaines. Et puis, des films qui sont un peu des films cultes et qui touchent peut-être des publics plus jeunes. Donc, on essaie vraiment, à travers cette programmation, à la fois de voir l'ancien, et puis le nouveau, hein, puisque c'est quand même une forme cinématographique qui continue, qui est toujours mise en valeur. Voilà, donc, et puis surtout, ce qui est intéressant aussi, c'est de montrer des chefs-d'œuvre hein, que l'on n'aborde plus. Il y en aura un cette année un petit peu particulier, qui est le Alexandre Nevsky de Eisenstein, mais qui sont des films intéressants, d'abord parce qu'ils sont très connotés d'une époque, d'une idéologie, mais quand en plus c'est un grand compositeur qui fait la bande de son. On ne peut que vraiment encourager la diffusion de ces œuvres.
Alors ben justement, il y a 9 films au programme pour ce festival, c'est 4e en rencontre.
Oui, alors bon, le festival commencera jeudi dans l'après-midi à 14h, avec le film de Jacques Demy, Podane, avec la musique bien sûr de Michel Legrand.
Quatre bras serrés qui s'enchaînent, l'âme sereine, comme un foulard de blanche laine, l'amour s'enroule et puis se noue.
Alors ça c'est une séance un petit peu particulière, car ce sera à la fois séance scolaire, mais qui est quand même ouverte à tout public. Alors bon, on ne va pas présenter le magnifique conte de Podane, de ce roi qui tombe amoureux de sa fille. Bon, c'est quand même, puisqu'il avait fait promesse à sa femme d'épouser une femme plus belle qu'elle. Et en fait, c'est sa fille qui va, par tous les moyens, et bien sûr, essayer de fuir vraiment je n'allais pas dire les agressions, parce qu'il ne l'agresse pas, mais en tout cas, l'intention de son père. Alors c'est magnifique, parce qu'évidemment, tout cela s'est accompagné de chant, de musique, c'est assez romantique, c'est un peu kitsch aussi, moi j'aime beaucoup ce film parce que c'est kitsch, on retrouve une Catherine Deneuve vraiment resplendissante, et puis Jean Marais aussi comme comédien, et puis le tout jeune donc comédien Jacques Perrin, hein, voilà, donc ça c'est je crois le côté sympa, donc je crois que c'est un beau conte de fées qui devrait intéresser les enfants, et qui reste quand même une des belles œuvres de Michel Legrand d'un point de vue musical. Hein. Alors le soir, eh ben, ça sera la véritable ouverture, alors là on a un biopic. Le biopic, vous savez, c'est Biography Picture, dans toutes les biographies d'artistes ou de musiciens que l'on porte à l'écran. Et là, c'est le très beau film d'Olivier Dahan, donc La Môme, hein, qui a été quand même un film, qui est un film récent, qui est de 2007, donc qui essaie de retracer vraiment la vie d'Edith Piaf, de son enfance à sa gloire, jusqu'à ses ruptures, bien sûr, amoureuses, avec la très belle histoire d'amour avec Marcel Cerdan. Bon, évidemment, ce film, il est surtout marqué par l'interprétation tout à fait extraordinaire de Marion Cotillard, qui a été bien sûr primée, et ce film qui a été d'un point de vue international quand même très très coté, puisqu'il a été présenté aux Oscars. Il n'a pas eu les Oscars, mais bon, il a été quand même présenté comme film français. Voilà, donc ça c'est le soir à 20h30.
Il est entré dans mon cœur une part de bonheur dont je connais la cause.
Le lendemain.
Alors là, on change de registre.
Le lendemain, alors là, c'est le 11 novembre, donc vous verrez, ça n'a rien à voir avec la commémoration du 11 novembre, mais on va commencer l'après-midi avec un film un petit peu qui a été un film culte en son temps, fin des années 70, avec le Grease, hein, ce film de Randall Kaiser avec un jeune John Travolta et puis la très jolie Olivia Newton-John. Alors là, évidemment, bon, on se replonge dans ces années 60, avec tout ce côté un peu, je dirais, kitsch aussi, parce que j'aime bien ce film. Mais alors, bande de son, danse, chorégraphie, musique, là on en a vraiment pour les yeux et pour le rythme. Et c'est une comédie musicale, moi, que j'aime beaucoup. Ensuite, dans la foulée, là c'est un film assez méconnu, qui est un film de Ken Russell, qui est quand même un grand réalisateur anglais, qui est de 1970, et c'est le Music Lover, ou la symphonie pathétique, qui est une vision de la vie de Tchaïkovski, ce grand musicien russe qui était un homme complexe, un des plus grands compositeurs de musique russe. Et ce film, il le fait à travers les femmes qui ont marqué la vie de cet artiste. Il faut savoir que Tchaïkovski était homosexuel, mais il y a quand même des femmes qui ont marqué sa vie. D'abord sa sœur Sacha, ensuite cette Madame von Meck qui était une mécène et qui l'a suivi pendant sa carrière. Voilà. Et puis, ce qui fait le cœur de l'histoire aussi, c'est cette admiratrice qui va tout faire pour se faire épouser par Tchaïkovski. Évidemment, ce sera un mariage raté, puisque ses aspirations vont ailleurs. Et c'est un film très dur, à la fois très beau, d'un point de vue musical, d'un point de vue cinématographique, très, très audacieux dans la façon de concevoir l'image et le rythme de l'image. Mais c'est un film assez noir, hein, parce que bon, ça se termine quand même dans la folie pour la femme et dans la mort, une espèce de suicide même de Tchaïkovski, qui, alors que Moscou est pris par le choléra, il ira boire de l'eau. Parce que c'est ça vraiment, on n'en sait rien, mais là c'est vrai que c'est ce côté très, très noir de l'œuvre. Ce film, je le recommande. Je le recommande parce que c'est vraiment un chef-d'œuvre qui était un peu qui est tombé dans l'oubli, mais c'est vraiment un chef-d'œuvre. Ensuite, le soir à 20h30, alors là, nous aurons un film un petit peu long, c'est l'adaptation cinématographique de la comédie musicale, donc Un violon sur le toit. Qui est une très très belle histoire qui raconte l'histoire à la fois d'une communauté juive, mais aussi l'histoire d'un homme et de ses filles, je crois qu'il en a quatre, je ne me rappelle plus, qui est très très bien, donc lui c'est un pauvre laitier dont l'amour, qu'il va chercher à trouver bien sûr on est au début du XXe siècle, on est encore dans la Russie tsariste, on est encore dans ces histoires de pogroms où on évacuait les juifs, où on les soumettait quand même à une répression assez terrible. Et là, c'est un film, je dirais, à la fois plein d'amour, plein d'espoir, plein d'espérance et sur fond tragique quand même de cet antisémitisme qui a été quand même en Russie à un moment de l'histoire très 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 fort. Alors d'un point de vue musical, danse et chant, là on en a vraiment, on est servi. C'est assez étonnant, surtout quand on aime toutes ces traditions ashkénazes de l'Europe centrale.
Oui, si j'étais bidi-bidi-riche, idle-diddle-diddle-diddle, moi.
Après, le samedi, alors c'est là où à 17h, donc je propose qu'on redécouvre ce monument, c'est Alexandre Nevsky, c'est une cantate donc cinématographique qui a été réalisée par Eisenstein, hein, ce grand, je dirais, réalisateur soviétique. Hein. Rappelez que ce film, il est réalisé en 1938, on est à l'approche de la guerre, donc il va prendre une connotation très idéologique, puisque Alexandre Nevsky, donc on est en 1242, va... C'est un moment où la Russie subit encore le joug mongol, donc c'est une période noire. Mais en plus, venant de l'Ouest, c'est les chevaliers teutoniques, donc les chevaliers allemands qui viennent conquérir la Russie. Et le film raconte effectivement le combat d'Alexandre Nevsky qui va soulever des troupes, des paysans, des pauvres et tout, et qui vont défendre ce pays. Et là, c'est une exaltation de l'âme russe, vraiment de la culture et de l'âme russe, qui est là aussi très représentative de ce que cette Deuxième Guerre mondiale va représenter aussi pour les Russes, en luttant contre, bien sûr, je dirais, les nazis. Voilà. Alors, l'avantage de ce film, c'est un film évidemment qui, d'un point de vue cinématographique, est très dépassé, hein, mais il y a la musique, la bande de son qui est quand même Prokofiev, qui est la musique de Prokofiev, qui a composé cette cantate Alexandre Nevsky et qui vient, bien sûr, marquer. Il n'y a pas beaucoup de paroles, mais il y a toujours la musique qui est là pour illustrer ce film qui est assez étonnant. Assez étonnant, mais bon, maintenant, c'est vrai qu'il a vieilli, il a beaucoup vieilli. C'est un film qui a été porté un petit peu comme très emblématique, très nationaliste pour la lutte contre le nazisme. Voilà. Alors le samedi soir à 20h30, là on va dans l'opéra, le monde de l'opéra. On va retrouver deux vedettes, Roberto Alagna et son épouse Angela Georgiou, dans l'adaptation cinématographique qui a été faite par Benoît Jacquot de La Tosca, Donc c'est une co-réalisation française, allemande, anglaise et italienne. C'est un film qui a été fait en 2001 et qui est l'adaptation de l'opéra de Puccini, La Tosca, dans un décor quasi naturel. C'est tourné vraiment à Rome même. Et bon, là, l'histoire, bon, on la connaît, c'est l'histoire tumultueuse d'une chanteuse d'opéra, Flora Tosca, qui a un amant qui est peintre. Mais c'est au moment, effectivement, où là, il y a, on est dans la libération de l'Italie, hein, c'est les mouvements nationalistes effectivement qui veulent redonner une identité à l'Italie, et là il y a tout un fond bien sûr de complot politique avec ce personnage abominable Scarpia qui est tenu par un autre artiste, Ruggero Raimondi. Donc voilà, c'est une très très belle histoire, et puis quand on aime bien sûr ces magnifiques accents de la Tosca de Puccini, bon, c'est un film assez réussi. Même si on peut se poser, bon, moi le puriste que je suis, se dire est-ce que Angela Giorgio a la voix pour chanter Tosca? En tout cas, elle en a le dramatisme et c'est vraiment une belle œuvre. Voilà. Ensuite, le dimanche. Alors là, le dimanche, on aura deux films aussi. Un qui est vraiment une réalisation de Gérard Corbiot, qui est un très très beau film, qui est Le Roi Danse. Le Roi Danse qui va montrer en quelque sorte les trois destins qui se conjuguent, qui se rencontrent, et bien sûr celui de Louis XIV, qui, on sait très peu qu'à cet âge-là, Louis XIV, à 14 ans, quand il était adolescent, dansait beaucoup. Et il avait pour le servir le très grand Lully qui lui écrivait, dont des ballets, c'était l'époque de la danse baroque. Et puis le jour où, bien sûr, grandissant, Louis XIV ne danse plus, Lully va devenir, bien sûr, l'artiste, le musicien de la cour, et composer ses plus beaux opéras, ses plus beaux spectacles, et notamment avec Molière. Donc ça va être ces trois destins qui vont être constamment imbriqués dans le film. Bien sûr... les influences des uns et des autres pour être le favori du roi. Enfin, c'est un très très beau film. Je rappelle que Corbiot avait réalisé Le Farinelli, hein, qui est l'histoire de ce grand castrat, ou une grande réussite cinématographique et musicale. Alors là, évidemment, c'est un film, bon, sur ces trois, mais personne, mais énormément musical, bien sûr, puisque c'est sur fond de musique de Lully. Et puis voilà, donc ça, c'est un très 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 beau, très très belle adaptation cinématographique. Un grand film de Milos Forman, le Amadeus. Bon, les gens vont dire on le connaît, on l'a déjà vu. Moi, je ne m'en lasse pas. Je trouve que c'est une adaptation très personnelle de ce qu'a été la vie de Mozart. Bon, évidemment, même si d'un point de vue historique, bon, on peut en dire, cette histoire, est-ce que vraiment... oui, cette histoire un petit peu particulière de Salieri, qui aurait été vraiment celui qui aurait écrasé Mozart, qui aurait été vraiment la cause de son suicide, en fait, de sa mort, bon... On peut rentrer, est-ce que ça a été historique? On n'en sait rien. En tout cas, la dramaturgie du film est fondée sur cette intrigue-là. C'est étonnant, c'est un film fabuleux où on montre Mozart, je crois, très proche de sa personnalité, en tout cas ce qu'en révèle sa correspondance. C'était un génie, mais paillard. Paillard, puis vraiment, il était accro sur le sexe, quoi. S'il était addict sur le sexe, quoi. C'était vraiment ce qui le menait dans sa vie. Si, il faut le dire. Mais à côté de ça, c'était ce musicien génial, donc qui a vraiment et qui reste aujourd'hui l'un de nos plus grands compositeurs de notre histoire occidentale. Moi, je trouve le film vraiment une grande réussite. Alors, évidemment, c'est 3 heures, hein, et on vit ces 3 heures avec un souffle qui ne se départit jamais. Voilà un petit peu la programmation cette année. Évidemment très contrasté, puisqu'il y a de l'opéra, il y a de la comédie musicale, il y a des biographies, il y a un film un petit peu particulier, du cinéma américain, du cinéma français, enfin bon, je veux dire, c'est assez représentatif de, vous me parliez de comment on choisissait les programmations, ben c'est assez représentatif de ce type de programmation qui joue les contrastes et qui essaie d'attirer des publics très divers.
Un dernier petit mot sur les tarifs peut-être.
Oui, alors les tarifs, bah écoutez, si les gens se sentent de venir suivre les 9 séances, donc on fait un pass rencontre 9 séances à 35 €, donc possibilité d'assister à tout. Après il y a un pass rencontre à 4 séances à 15 €, et sinon le billet à la séance c'est tarif plein 5 € et tarif réduit 4 €. Voilà. Un petit peu, donc tout se prend, la billetterie se prend sur place au cinéma Le Temple dès jeudi où commenceront ces rencontres.
Voilà le quatrième rencontre du film musical à Camarès, 05 65 49 29 94, si vous voulez avoir des places, c'est faisable. Voilà, on continue. Mais faut-il négocier pour loger nos morts, la solution dans ce nouvel épisode de 3 à 246, le cimetière de Monargues.
3 à 246. Chronique de la Maison de la Mémoire.
Alors aujourd'hui, je voulais étudier les délibérations du conseil municipal pour parler un petit peu du nouveau cimetière, enfin qui est l'ancien pour nous, le cimetière de Monargues. Parce que les délibérations, même si c'est des documents un peu austères, en fait racontent toutes les péripéties qui ont duré très longtemps pour arriver à l'obtention de ce nouveau cimetière. Donc ça commence en novembre 1838, où on voit une délibération dans laquelle est écrit qu'il y a une épidémie qui sévit à Sainte-Afrique. Et cette épidémie entraîne beaucoup de décès qui du coup révèlent l'exiguïté du cimetière qui est devenu trop petit. Il faut savoir qu'à ce moment-là, le cimetière, vu que Sainte-Afrique est une ville relativement protestante, il est divisé entre catholiques et protestants. C'est ce qui va un peu compliquer l'affaire. Donc la première solution en 1838, c'est de donner aux catholiques la partie des protestants et leur trouver à eux un nouveau terrain pour un nouveau cimetière. 6 mois après, donc en mai 39, on trouve un terrain qui pourrait convenir à côté du temple, donc à l'emplacement où il est aujourd'hui. Mais le propriétaire n'est pas d'accord pour donner son terrain. Alors on commence à penser à l'exproprier. L'affaire ne se résout pas, on arrive 4 ans plus tard, donc en 1843. Et là, l'évêché menace carrément de fermer le cimetière si on ne leur donne pas la partie protestante, ou alors si on ne trouve pas un nouveau cimetière. Du coup, il y a urgence, donc on va essayer de négocier avec le propriétaire qu'on avait trouvé. On nomme une commission, mais a priori ça porte pas ses fruits. Et donc en mai 1843, on apprend que la commission a malgré tout trouvé un terrain aux cases, mais il faut encore faire les études nécessaires pour voir si ça peut convenir pour l'établissement d'un cimetière. On arrive 10 ans plus tard, donc en 1853, où l'affaire apparemment n'est toujours pas réglée, puisqu'on apprend que le Conseil des protestants a acquis un terrain à Monargues pour y établir leur cimetière. La seule chose qu'ils demandent, c'est l'autorisation officielle de pouvoir le faire. Ils ne demandent pas de subvention ni rien. Mais ils demandent juste aussi à conserver malgré tout la partie protestante dans l'ancien. Donc on nomme une nouvelle commission, et là on arrive en mai 54, et on apprend que finalement la demande des protestants, elle est sans objet, puisque le cimetière des catholiques est devenu aussi beaucoup trop petit, il faut trouver autre chose. Et là, ils nous révèlent qu'ils avaient acquis des terrains, du coup vers les années 1790, donc à côté du cimetière qu'ils voulaient agrandir, et qui est donc situé en face à la Maison de la Mémoire. Mais malheureusement, ces terrains-là, entre-temps, il y a des maisons qui ont été construites dessus, il y a une place publique sur laquelle il y a une foire qui a lieu, donc c'est plus possible. Et en plus, de toute façon, la couche végétale, donc la couche de terre, elle est trop mince pour convenir pour un cimetière. Donc on se propose d'aller voir le fameux terrain aux cases, et on envisage diverses solutions donc pour financer les travaux. Puis, donc là, on était en mai 54, arrive l'été 54, où là, y a une épidémie de choléra. Et du coup, ben, y a de nombreux, très nombreux décès. Et il faut donc trouver vraiment dans l'urgence ce nouveau cimetière. Et alors là, ça devient assez... ça fait une jolie péripétie parce qu'on voit donc toute la municipalité, le préfet, le maire de Rodez et un conseiller général qui se rendent tous aux cases pour aller voir ce terrain. Et là, en fait, il se révèle que le terrain, il ne convient pas parce que déjà, il y a beaucoup trop de propriétaires qui sont concernés et ça serait compliqué. En plus, il est exposé plein sud et c'est certainement pas terrible pour un cimetière. Et en plus, il se trouve être trop proche de la seule fontaine qui alimentait en eau tout le quartier des cases, ce qui posait des problèmes de salubrité. Du coup, des cases, les voilà reparties vers Monargues pour aller voir le terrain, le fameux terrain trouvé bien des années avant par les protestants. Et alors là, coup de chance pour eux, il se révèle être convenable pour l'établissement d'un cimetière. Et en plus, il est situé dans un endroit pas du tout urbanisé, donc on peut envisager des agrandissements futurs. D'autant plus que ces terrains-là ne concerneraient que deux propriétaires. Ce qui donc, pour les affaires administratives, ça faciliterait les choses. Et parmi eux, il y a Eugène Peyre-Cadias, qui se trouvait être un conseiller municipal. Donc les voilà toute notre ribambelle de personnages se rendant chez Eugène Peyre-Cadias, donc à la Maison de la Mémoire, puisque c'est là qu'il habitait, pour négocier avec lui. Et lui leur répond qu'il veut bien leur donner purement et simplement ses terres, et qu'il se charge même d'aller négocier avec le Conseil des protestants pour l'obtention des terres qu'ils avaient acquises à cet endroit-là. Donc c'est ce qu'il fait. Il obtient le don des protestants aussi. La seule chose qu'il leur demande, c'est de réserver la partie la plus plane aux protestants. Et du coup, c'est comme ça, au bout de bien 20 ans, qu'on est arrivé à créer un nouveau cimetière.
Chronique de la Maison de la Mémoire. Avec la participation de toute l'équipe de la Maison de la Mémoire du pays saint-africain. Florian Boulet, Sophie Roumégous, Julien Cossat, Delphine Diez, Stéphane Géniès.
Voilà, Florian Boulet au micro d'Elsa Gourman. Bon, ben on va tirer la révérence parce que c'est l'heure. Hein. Les abreuvoirs sont pleins, donc on pourrait laisser tomber les encensoirs et ouvrir les yeux sur les réalités, ma foi encore brumeuses, de notre planète. C'est fini pour aujourd'hui. On se retrouve lundi 21 novembre. Merci Elsa.
Merci
Manu. Merci Z. Merci Chloé. Vendredi, un petit sujet, puisqu'on n'est pas là, mais on est au défilé, mais on aura un petit sujet des agourmands. Un groupe de citoyens s'est constitué, en fait, d'aider les personnes qui ont des problèmes de droits et de liberté. Ce groupe assurera une permanence au lieu-dit. Logement, quel droit sera le thème du premier rendez-vous au lieu-dit le jeudi 17 novembre de 18h à 20h30 en présence d'un membre du DAL qui débutera par un point sur la trêve des expulsions durant l'hiver. Donc retrouvez ce sujet vendredi matin à la place de la matinale. Nous, on a des stagiaires la semaine prochaine, donc je vous expliquais tout à l'heure. Vous aurez des portraits d'étrangers sur Toulouse qui sont produits. Cette émission, ces sujets ont été produits par Faïdos Sonore, une association de création radiophonique du côté des Pyrénées. Je ne me rappelle plus dans quel village ou quelle ville. Bref, on se dit au revoir, on se retrouve donc.
Et demain, on laisse la place au tonton Flingueur.
Et demain, c'est les tontons, mais ça, plein de gens ne l'ont pas oublié. Alors, lundi 21 novembre, on sera de retour. C'est parti!
Thank you.